Mais le contexte, c'est aussi cette vague MeToo qui ébranle en ce moment le cinéma français. Le président évoque ses propos controversés sur Gérard Depardieu. C'était en décembre dernier, il avait pris la défense de l'acteur en saluant un immense acteur qui rend fière la France, je cite. Il avait dénoncé à l'époque une chasse à l'homme. Voilà ce qu'il dit dans Elle ce mercredi. Il n'y a chez moi aucune complaisance, juste une volonté de respecter la présomption d'innocence. Il se rattrape. Christophe Barbier.
Oui, remets-les-moi à l'endroit, parce qu'il les avait mis sacrément à l'envers ce jour-là. Commencer par parler des victimes, commencer évidemment par parler des processus judiciaires, puis après, éventuellement, dire qu'il ne faut pas jeter aux oubliettes ce qu'a été peut-être l'artiste Gérard Depardieu, ce qu'il a apporté à la France. Donc il remet ça dans l'ordre. C'est aussi un propos électoral. Dans les difficultés actuelles de la majorité par rapport aux élections européennes, il y a deux effondrements. C'est l'effondrement du vote jeune. On est tombé à 7-8% seulement de vote jeune pour la liste Valérie Ayé. Et il y a une fuite de l'électorat féminin. Et en partie vers la liste de Raphaël Glucksmann. Donc c'est aussi une manœuvre du président pour dire, bon, il faut essayer d'endiguer cette hémorragie.
Pierre-Édouard Magnan, c'est comme ça que vous le voyez aussi. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez parlé aussi des femmes potentiellement victimes.
Alors, j'espère qu'il s'en est rendu compte. Je ne suis pas sûr qu'il se rende compte de grand chose, en fait, par certains moments. C'est-à-dire que je pense que souvent, il est hélas sincère. Alors, par contre, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'évidemment, c'est des effets de ce qu'il avait dit, et qu'il essaye, vous avez dit, de se rattraper aux branches. Il essaye aussi, parce que c'est dans une interview avec un certain nombre de sujets. On va d'ailleurs parler d'autres sujets après. Il y a aussi, au-delà de l'intérêt des sujets eux-mêmes, une véritable diversion, parce que le discours à la Sorbonne est un four. Véry n'a créé aucun élan, aucune dynamique. La liste qu'il soutient est quand même, on l'évoquait je crois tout à l'heure, elle va se prendre une gifle. Le seul sujet, c'est la force de la gifle. Et donc, du coup, il faut essayer de faire un pas de côté, de ramener d'autres sujets. Et j'ai envie de vous dire, en plus, vous savez, c'est une vieille technique. Quand vous maîtrisez pas le politique, quand vous maîtrisez pas l'économique, vous tentez le sociétal. Vieille technique politique. Ben là, on revient dans le sociétal. C'est pas pour dévaloriser les sujets sociétaux en tant que tels.
C'est même pas les sociétaux, là.
Mais non, ça sent quand même. Non, alors,
et d'essayer de convaincre.
J'évoquais le sujet sur le droit de visite des pères, ouais. Sur le sujet Depardieu. On est au-delà du sociétal. Mais effectivement, il a tapé complètement à côté. Et en plus, il se trouve que ce qui s'accumule sur la personnalité de Gérard Depardieu et les vidéos qu'on a vues et qu'on a tous entendues font qu'en plus, c'est un cas qui devient indéfendable au-delà, par ailleurs, de ses offres qui, elles, demeureront quoi qu'il arrive.
Ah, vous y voyez quelque chose d'électoraliste aussi? C'est-à-dire, il faut convaincre aussi un petit peu les femmes?
On voit ça, je trouve que ça fait écho à votre reportage. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la stratégie. Un même sujet, deux buzz. Un buzz au moment où il fallait faire oublier les sujets, notamment
la loi immigration.
Et là, aujourd'hui, il y a plein d'autres sujets. Bah, il remet une cartouche et dans l'autre sens et ça refait un buzz. Donc, je trouve que c'est très, très stratégique. Après, sur le fond, moi, je trouve qu'effectivement, le fait de redire que les jugements ne doivent pas se faire sur les réseaux sociaux et d'appeler à une forme de modération, c'est par contre une bonne chose. Mais effectivement, il est habile et avec un seul sujet, il est capable de faire deux buzz et deux semaines d'actualité avec trois mois de décalage.
Mais il avait quand même déjà commencé à faire un peu une sorte de mea culpa. C'était il y a quelques semaines lors de sa conférence de presse. On écoute Emmanuel Macron.
Je vais vous dire, je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est essentiel pour moi et nous continuerons l'action.
C'était important qu'il en remette une couche aujourd'hui, Anne-Elisabeth Moutet.
Je dirais que dans la mesure où elle a décidé qu'il allait devenir beaucoup plus social, beaucoup plus dans l'air du temps, essentiellement parce qu'elle se rend compte que si elles veulent, les rédactrices en chef, la direction se rend bien compte que si elles veulent renouveler l'électorat, il leur faut des gens plus jeunes et que c'est incontournable pour les gens plus jeunes, il donnait un grand coup de main à elle aussi. C'était dans les deux sens. Je ne sais pas si c'était nécessaire, je ne sais pas quel effet ça fait. Le sujet dont on va parler dans un instant et qui est l'obligation de visite parentale, je pense que c'est un truc, ça allait dans le dur. Mais là, effectivement, c'est l'effet qui se coule d'une stratégie de communication, c'est un peu fatigant, quoi.
Emmanuel Dancourt, je crois que on m'a dit en régie, parce qu'on vous voit en Skype en régie depuis 5 minutes, on vous voit apparemment lever les yeux au ciel. Vous êtes, je le rappelle, présidente de MeToo Media, ça vous exaspère, ces nouveaux propos d'Emmanuel Macron dans le L aujourd'hui?
Ah oui, je suis exaspérée. Je pense que on le savait déjà, mais Malheureusement, notre président de la République a une incompréhension totale sur le sujet, et notamment pour la partie qui concerne MeTooMedia, une incapacité totale à comprendre les sujets des violences sexistes et sexuelles. Et je rejoins là le constat qu'a fait sur votre plateau il y a quelques instants Pierre-Édouard Magnan. C'est un sujet qui ne l'intéresse pas. On est face à un mur d'incompréhension.
Et mais quand il dit Emmanuel Dancourt, quand même, il est dans son rôle de président de rappeler aussi l'importance de la présomption d'innocence, et il insiste encore là-dessus. Il n'y a chez moi aucune complaisance, juste une volonté de respecter nos principes tels que la présomption d'innocence, ces mêmes principes qui vont permettre à la justice de statuer en octobre prochain, et c'est une bonne chose, dit-il.
Eh bien, non, pas du tout. Parce qu'il utilise là l'argumentaire classique des gens qui sont des côtés des mises en cause. Il nous dit d'abord, il faut écouter la parole des victimes. Ben, merci, heureusement qu'on ne l'a pas attendu pour libérer notre parole, qui n'est pas facile à libérer, parce que c'est une parole que les gens n'ont pas envie d'entendre. Après, il dit, il faut laisser la justice faire son travail. Alors, il doit être le seul à pas avoir entendu le bilan sur la justice en France, qui est totalement dysfonctionnelle, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas complètement non plus la formation sur ces violences sexistes et sexuelles, dont une des demandes qu'ont les associations féministes, ce sont des tribunaux spécialisés, mais pas que, loin de là. Et puis, alors, cette fameuse présomption d'innocence dont vous parlez, Julie Hamet, en fait, il fait comme tout le monde, il maîtrise pas bien le concept, ou pire que ça, il le maîtrise et il manipule en disant, il instrumentalise cette présomption d'innocence en la ramenant dans un champ où elle n'a pas lieu d'être. La présomption d'innocence fait partie du droit pénal.
Pourquoi, elle n'aurait pas lieu d'être
mais parce que il l'utilise.
Tant qu'il n'a pas été jugé, il est présumé innocent. Non.
C'est pas ça qu'il dit. Il utilise cette présomption d'innocence, comme beaucoup de gens, pour dire en fait que c'est comme si les victimes n'avaient pas le droit de parler, en disant qu'on ne respecte pas la présomption d'innocence et que les jugements sont déjà faits à la hâte sur les plateaux télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas vrai. En fait, juste, les victimes libèrent leur parole et elles ont parfaitement le droit, elle aussi, de dire ce qu'elle pense. Et la présomption d'innocence, c'est une notion de tribunal. Donc on verra au moment du jugement. Si on prend le cas de Gérard Depardieu, on va avoir donc...
Il sera jugé en octobre prochain.
En octobre prochain, effectivement, la présomption d'innocence est parfaitement respectée.
Ça fait beaucoup réagir. Merci Emmanuel Dancourt. Olivier Vial, un dernier mot là-dessus.
Oui, effectivement, la présomption d'innocence, c'est une notion juridique. Mais quand on a quand même des procès médiatiques qui se font comme ça, il y a aussi une forme de modération à avoir, à la fois le respect de la parole des victimes, mais aussi le respect, parce qu'on a eu quand même pas mal d'affaires récemment où, à la fin, les hommes ont été innocentés totalement et malheureusement, leur carrière en avait pâti. Donc je pense qu'il faut effectivement être aussi un peu dans la modération pour pas être dans une... Et là, le président avait raison, c'est pas une chasse à l'homme qu'on doit mener sur les réseaux sociaux.